おかしい、おかしい。ちょっとおか
Bonsoir. Demain jeudi 3 mai, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse. À la veille de cette date, un rapport classe la RDC parmi les pays du monde où la liberté de la presse est la plus bafouée.
On a constaté dans la République démocratique du Congo une détérioration dans les conditions de la presse.
Qu'est-ce qui justifie ces classements de la RDC parmi les pays très mal cotés en matière de liberté de la presse? Quelles mesures prendre pour garantir la liberté de la presse en RD Congo? Réponse à ces questions dans le dialogue entre Congolais de ce soir. En attendant, voici ce que pensent nos auditeurs. Adrien Iloba Kouyi à Kananga, Kasai Occidental, dit: peut-on parler de démocratie à RDC alors que la presse est muselée par le pouvoir? Bernard Mukwanga à Kikwita et Bandundu, peut-on parler d'un état de droit à RDC où la liberté de la presse est inexistante? Et Perlan à Bukavu Sud qui vous pense que la liberté de la presse pose problème à RDC, car beaucoup de journalistes confondent la politique et le journalisme. Lui, pasteur à Kindu dans les Maniema, estime que la plupart des journalistes ne respectent pas l'éthique journalistique, et quand la loi essaie de redresser les choses, il crie au droit de l'homme. Junior Mabaya à Kinshasa, tant que les autorités congolaises n'accepteront pas les critiques que les journalistes font à leur égard, on ne parlera jamais de la liberté de la presse au Congo. Enfin, Pepe Lissoumbi à Kisangani, province orientale, voudrait connaître la réaction du ministre de l'Information et Presse en rapport avec les conclusions du rapport publié par l'ONG du CPJ. Pour aborder ces sujets, nous avons trois invités ce soir. Son Excellence M. Toussaint Tshilombo Saint, ministre de l'Information et Presse et porte-parole du gouvernement, il est au studio. Mme Chantal Kanimbo, présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, elle est au téléphone. M. Tivis Tshivwadi, vice-président des journalistes en danger, ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse, il est au studio. Bonsoir et bienvenue à nos invités.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission, c'est donc demain jeudi que la Journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée. Saisissant l'occasion, CPJ, Comité pour la protection des journalistes, une ONG américaine, vient de publier son rapport. Rapport qui classe la RD Congo parmi les trois pays qui viennent en tête de la liste du top 10 des États rétrogrades en matière de liberté de la presse. En Afrique, la République démocratique du Congo vient juste après l'Éthiopie et la Gambie. Sur le plan mondial, notre pays vient respectivement après l'Éthiopie, la Gambie et la Russie. Sous base de quels critères cette ONG américaine place la RDC parmi les premiers pays où la liberté de la presse s'est détériorée ces cinq dernières années? Réponse avec M. Robert Mahoney, il est directeur adjoint du CPJ. Il était joint depuis New York par Kevin Kouté.
On s'est servi de 7 critères pour dresser cette liste. Les critères sont le meurtre des journalistes, et on a connu 2 journalistes qui ont été tués au Congo ces dernières années, l'emprisonnement des journalistes, les poursuites judiciaires pour diffamation pour faire taire les journalistes, les menaces contre les journalistes, les attaques physiques contre les journalistes et l'harcèlement judiciaire. Ce sont les critères qui sont à la base de cette liste. Ce sont les critères dont on se sert tout le temps pour recenser les attaques contre la presse et les violations de la liberté de la presse mondiale.
Monsieur Robert, pensez-vous que la situation de la presse dans des pays comme le Cuba, la Corée du Nord, l'Irak et le Soudan est mieux qu'en RDC?
La situation dans tous les pays est différente, il y a une répression, mais la répression peut prendre des formes différentes dans les pays différents. Alors, nous, on fait tout pour défendre la liberté de la presse un peu partout dans le monde, que ce soit l'emprisonnement comme à Cuba, ou que ce soit l'assassinat des journalistes comme en Russie, ou la répression de l'opinion comme au Congo.
Voilà, parole à nos invités pour réagir à ces propos. Je vous rappelle rapidement que donc, selon M. Robert, qu'on vient d'écouter, ils se sont basés sur les critères selon les critères comme la censure gouvernementale et harcèlement judiciaire, les poursuites pénales pour diffamation, les assassinats des journalistes, les attaques physiques contre la presse, les emprisonnements des journalistes, enfin les menaces contre la presse. Donc, ce rapport aussi indique qu'en RDC, deux journalistes ont été tués depuis 2005. Les agressions des journalistes sont passées de 3 à 9. Les poursuites pénales pour diffamation passent de 0 à 9. Le nombre des journalistes emprisonnés passe de 3 à 11. Donc, c'est la situation d'il y a 5 ans. Donc, on est bien d'accord. Monsieur Tuvis, tu vois dit, vous êtes secrétaire général des journalistes en danger, ONG congolaise de défense et de promotion de la liberté de la presse. Est-ce que vous partagez les résultats de l'étude menée par votre consoeur, l'ONG américaine CPJ, et les conclusions qui en découlent en rapport notamment avec la situation de la liberté de la presse en RDC?
Écoutez, nous sommes ici à Baza Kinshasa, une organisation qui justement fait aussi le monitoring de tous les cas d'atteinte à la liberté de la presse. Et comme vous le savez, chaque année, nous publions un rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse sur l'ensemble du pays et nous utiliserons pratiquement la même typologie des atteintes à la liberté de la presse qui compte des journalistes assassinés, ceux qui sont emprisonnés, les cas d'agression et de menaces contre des journalistes. Donc maintenant, là, pour parler de la situation concrète dans laquelle se trouve la République du Congo, surtout si on prend le thème de cette journée qui est celui de la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et l'impunité, nous disons que par rapport à cela, la situation dans notre pays est effectivement préoccupante, parce que si nous prenons simplement le premier trimestre de 2007, et qui coïncide avec l'installation de nouvelles institutions issues des élections, à notre niveau, nous avons pu dénombrer près d'une trentaine de cas d'attaque. Hein. On ne parle pas de violation, mais vraiment on peut parler d'attaque contre les journalistes et contre les médias. Et si vous regardez sur la trentaine, vous avez au moins 20 cas d'attaque contre les journalistes et contre les médias. Donc nous disons qu'il y a de plus en plus de cas de violence qui sont exercées contre les journalistes dans le cadre de leur travail ou contre les médias. Et cette situation nous préoccupe aussi au plus haut niveau.
Donc une menace réelle. Elle pèse sur la liberté de la presse en RDC.
Oui, à la suite de la déclaration du directeur général de l'UNESCO, nous disons que les violences qui sont faites contre les journalistes et contre les médias constituent de graves obstacles à la liberté de la presse.
Merci. Madame Chantal Tanimo, vous êtes présidente de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Comment vous jugez ce rapport de l'ONG américaine, le Comité pour la protection des journalistes, CPJ? Madame Chantal est pas au téléphone, visiblement. On va. Non, elle n'est pas encore là en tout cas. Excellence Monsieur Toussaint Tshilombo-Saint, vous êtes ministre de l'Information et Presse et porte-parole du gouvernement de la République. Je tiens à rappeler à l'intention de nos auditeurs que votre gouvernement a pris des fonctions le 24 janvier de cette année et que ce rapport parle de la situation des 5 dernières années. Mais bien sûr, bien entendu, en tant que gouvernement, vous héritez et du passif et de l'actif. Ceci dit, on peut savoir ce que vous pensez de ce rapport et si vous venez de suivre la réaction de M. Tshilombo-Saint. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, je vous remercie pour la question, mais je vais tout d'abord saluer tous nos auditeurs des Radio Capi qui nous suivent à travers la République et à travers le monde. Je pense que le rapport de cette organisation, CPJ, c'est un rapport que je trouve un petit peu fantaisiste parce que la liberté de la presse dans notre pays est respectée. Mais il se pose un petit problème, ce sont les hommes et les femmes des médias qui confondent, comme l'a dit un des auditeurs qui est dans l'équivalent, en disant qu'on confond la politique et le journalisme. Il y a aussi ceux qui se livrent à des attaques, à des provocations par rapport à certains individus, se couvrant de la qualité des journalistes, et lorsque ceux-ci veulent faire revendiquer leurs droits, à ce moment-là, on dit que les journalistes sont en danger. Mais je voudrais apporter un petit correctif, puisque le gouvernement d'Antoine Gizenga est entré en fonction le 24 février et non le 24 janvier. Et à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, nous avons un seul journaliste, je précise bien, nous avons un seul journaliste qui est emprisonné, mais pour des raisons privées. pas en tant que journaliste. Et je pense que le secrétaire général des aides qui est ici avec son organisation, nous sommes de temps en temps en contact lorsqu'il y a un problème. Nous essayons de faire de notre le maximum pour qu'on puisse éviter les désagréments. Mais par rapport à ce qui est dit ici, je pense que ceci pose aussi la question de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Qui fait le journalisme, qui ne le fait pas, qui fait la sensation, qui fait du véritable reportage. Donc, c'est à peu près ce que l'un des auditeurs a parlé ici, le respect de l'éthique et de la déontologie de cette profession noble qui est le journalisme.
Merci, monsieur le ministre. Je ne sais pas si madame Chantal, n'est toujours pas présente au téléphone, mais tu vois dire, vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement, le ministre des tutelles, information et presse, vous êtes tout à fait d'accord avec lui?
Je suis surpris, très étonné d'entendre le ministre dire qu'il s'agit d'un rapport sans visite. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous faisons le monitoring de tous les cas qui sont répertoriés sur l'ensemble du pays, avec tous les détails possibles dans nos rapports que nous publions. Le rapport de CPJ devient en fait corroborer ce que nous disons ici sur place et qui n'a jamais été démenti par les faits. Oui, s'il faut aujourd'hui faire un tableau, une topographie à l'instantané de la situation qui prévaut aujourd'hui au moment où nous sommes en train de parler, oui, effectivement, nous avons un journaliste en prison depuis 6 mois, sans jugement. Nous avons 2 chaînes de télévision et 1 station de radio qui sont réduites au silence et donc qui ont été saccagées lors des affrontements de 22 et 23. Mais je signale que leur signal avait déjà été coupé quelques heures avant les affrontements. Nous avons à Louébo, pendant 1 mois et demi, nous avons connu
un
communautaire qui a été occupé pendant plus d'un mois par des militaires. Et je viens d'apprendre avant de monter dans ce studio que finalement les militaires ont levé le camp. Et donc vous avez cette situation de 2 journalistes aussi qui ont été assassinés au cours des 2 dernières années. Donc je dis, la liberté de la presse dans ce pays, elle est garantie par les textes, y compris la constitution du pays, mais dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que les gens, effectivement, non seulement n'acceptent pas les critiques, et ils s'en prennent aux 2 journalistes chaque fois qu'il y a une information qui ne les arrange pas. Et c'est ce qui est tout à fait scandaleux pour ce pays. Alors, dire que le rapport qui a été diffusé est fantaisiste, moi, je ne le dirai pas. D'autant plus que, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur tous les cas que nous avons recensés depuis le début de l'année, nous avons constaté que 90 cas de violences qui sont exercées contre les médias sont le fait des services de l'État, des agents des services de l'État, soit l'ANR, soit les services de sécurité de la police. C'est eux qui s'attaquent aujourd'hui aux médias, c'est eux qui arrêtent des journalistes et qui les détiennent pendant des longs mois et au cours de leur détention, les journalistes nous ont fait le témoignage de tous les services qu'ils subissent pendant qu'ils sont en détention dans les services spéciaux de la police. Et en disant que les services spéciaux de la police, quel que soit ce que les journalistes ont fait comme dérapage, qui peut tout à fait être compréhensible, nous disons que les services spéciaux de la police ne sont pas compétents pour connaître des délits de presse, si les délits de presse y a.
On me signale que Mme Chantal Kanimbo est au bout du fil, mais rapidement, j'ai vu Monsieur le ministre qui voudrait vraiment réagir.
Non, vous savez, c'est tout à fait normal que le secrétaire général des aides réagisse comme ça, puisqu'ils doivent justifier quand même le point qui ressort de par les postes, comment est-ce que cela...
J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes un ministre, vous ne devez pas avancer des choses que vous ne pouvez pas
réagir. Alors, on va continuer. Excusez-moi, je vais donner la parole.
S'il vous plaît, Monsieur Thierry,
s'il vous plaît, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont suivre, qui ont du respect.
Je ne peux pas accepter que dans ce jeu, ils disent aussi légèrement que je pense que je suis en train de justifier qu'ils font. Vous pouvez prouver
le mot. Monsieur Subis, vous avez eu le temps de réagir, monsieur le ministre avait la parole, et calmons le jeu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont suivre.
La moindre des choses, c'est le respect qu'on se doit les uns les autres, et vous avez vu, je respecte calme et serein, c'est déjà une réponse à cela. Et ici, je vous dis, monsieur, que vous pouvez vérifier. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un seul journaliste qui est en prison pour des raisons privées.
Monsieur Thibis l'a reconnu
également.
Voilà. Et je suis content qu'il ait dit à un certain moment qu'à cause des dérapages, cet esprit qui reconnaît lui-même qu'il y a des dérapages de la part des hommes des médias, et en ce moment-là, on n'entend pas, j'aide lever les tons pour essayer de ramener à l'ordre ceux qui font les dérapages. Mais c'est lorsque les personnes qui sont impliquées dans une situation qui trouvent qu'on a entaché à leur honneur et qu'ils puissent demander réparation, en ce moment-là, on parle que les journalistes sont en danger. C'est ça ce qu'il faut éviter. Donc, il faut éviter de confondre politique et journalisme, et il faut savoir respecter les codes déontologiques et éthiques de la profession, c'est ce que j'ai dit.
Excellent. Madame Chantal Kanyimbo, vous êtes présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Comment vous jugez ces rapports de l'ONG américaine, Comité pour la protection des journalistes et CPIJ?
Mais écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de lire ces rapports, donc je ne saurais faire aucun commentaire sur ce rapport. Mais ce que moi je voudrais dire à tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a des progrès effectivement qui ont été réalisés dans les domaines, dans notre domaine, de l'exercice de la liberté de la presse. Il y a de moins en moins de journalistes qui sont arrêtés, mais on ne peut pas oublier tous les harcèlements et toutes les pressions et toutes les menaces qui sont adressées aux journalistes dans l'exercice de leur métier. Tout simplement, à mon humble avis, parce que nous tous, aussi bien les acteurs politiques, sociaux que les journalistes, pour la plupart, nous ne prenons pas le temps de lire les textes qui régissent l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, qui est garanti aussi par la Constitution, parce que c'est un droit fondamental. Si il y a des acteurs politiques ou sociaux qui estiment que l'information donnée par un journaliste dans un article ou dans une information dans l'audiovisuel n'est pas exacte, la loi oblige une rédaction ou les journalistes de rétablir la vérité par les droits de réponse. Or, bien souvent, les gouvernants font fi, ou peut-être par ignorance, de cette disposition de la loi qui leur permet de rétablir la vérité s'ils ont les preuves de démontrer que ce que le journaliste a dit, ce n'est pas vrai, il raconte des histoires, voilà la vérité, c'est ça. Et moi, je crois qu'au niveau de l'UNPC et même de tous les partenaires, il y a un travail profond à faire, c'est dans la vulgarisation de textes, plus précisément les textes qui...
On va y revenir, avec les mesures qu'on doit prendre pour que finalement la liberté de la presse se porte mieux dans notre pays. J'ai vu, pendant que vous parliez, le porte-parole du gouvernement est en train de bouger la tête dans le sens de dire qu'il est d'accord avec vous. Nous allons prendre quelques faits sur le terrain, peut-être que ces faits font partie de ceux qui ont permis à l'ONG CPJ d'élaborer son rapport. Dans le Kassai occidental, la radio communautaire de l'Organisation pour le développement des Luebo, ODEL, a été autorisée de fonctionner à nouveau depuis mardi 1er mai après 45 jours de fermeture par les autorités des districts du Kassai, qui reprochaient à cet organe des prêtres de se livrer à l'incitation à la désobéissance civile. En dépit des enquêtes de la HAM qui avait ordonné sa réouverture depuis le 22 mars, les autorités campaient sur leur position. Malgré l'autorisation des réouvertures, la radio communautaire de l'Organisation pour le développement de l'UEBO est incapable de répondre au service car quelques-uns de ses matériels de travail ont pris une destination inconnue. Un des responsables de cette radio est au micro de Basile Bakumbani.
Dans tout cela, nous déplorons d'abord perte de matériel, entre autres nos matériels de reportage qui ne sont pas retrouvés. Il y a des câbles qu'on utilise parfois pour faire la retransmission de certaines notes, et ce n'est pas encore retrouvé. Il y a les stabilisateurs, ça n'y est pas là. Et puis, il n'y a pas le mixeur, vous savez que c'est un grand instrument qui doit harmoniser les sons, donc ça n'y est pas. Comment on peut procéder à cette ouverture, si longtemps que le constat de bien perdu n'est pas encore terminé? Nous voulons que l'on puisse d'abord revenir sur le constat, qu'on voit d'abord qu'est-ce qui est perdu et si le matériel là perdu, on peut le trouver pour qu'on puisse maintenant démarrer notre activité. Mais on ne peut pas aller ouvrir la radio aussi longtemps qu'il y a perte de certains biens.
Autre cas, c'est celui de Nelson Motamba, journaliste de la radio communautaire de Mwanda dans la province du Bas-Congo. Il a été tabassé par les éléments de la police nationale congolaise de cette contrée après les événements survenus dans ce territoire les 1er et 2 février dernier entre les adeptes des Bundjian Congo et les forces de l'ordre. Nelson Motamba était en plein exercice de ses fonctions, suivant son témoignage au téléphone de Anselme Sissi Mombéré.
J'étais victime d'une agression physique au niveau du territoire de Mouandal. Donc, le bureau de l'administrateur du territoire, c'est là où on avait installé l'état-major 1er février et 2 février. Alors, je suis allé à l'enquête d'une information sur les corps qui continuaient à traîner, abattis, les corps abattis les jours du 1er, qui continuaient à traîner pour savoir si des dispositions sont prises pour l'évacuation de ces corps. Dommage, je n'ai pas trouvé l'administrateur du territoire. Je suis allé trouver deux messieurs présumés manifestants qui ont passé à tabac devant les cachots du territoire. Et juste j'ai posé une question à celui-ci. J'ai demandé à l'administrateur du territoire assistant comment ces deux messieurs se sont arrivés à ces conditions et si c'était des manifestants ou comment. Et le commandant, je ne sais pas, il a compris d'une autre façon et mais donner des coups et d'autres coups humiliants et certains parmi les policiers des militaires qui étaient là sont venus justement en appui pour renforcer les forces. En fait, là j'ai vu d'autres personnes et d'autres militaires qui sont venus à mon secours qui me connaissaient et étant journaliste. Donc à cette étape là je peux dire que ce n'est pas la diffusion de l'information mais j'étais à la recherche de l'information.
Voilà, réaction de nos invités. D'abord, son excellence, monsieur Toussaint Tshilombo-Saint, ministre de l'Information et Presse et porte-parole du gouvernement. Vous avez suivi tout à l'heure, juste avant de prendre ses témoignages, madame Chantal Kanimbo, et c'est fait corroborer, en fait, ce qu'il dit, parce qu'il arrive des fois qu'une information est publiée, la partie adverse, si c'est le pouvoir, des fois, constate que non, c'est pas une vraie information. Alors, on envoie des éléments de la police pour pouvoir soit fermer les chaînes, soit en tout cas exercer une action disciplinaire. Alors que la loi reconnaît la partie qui a été lésée de pouvoir présenter une version, notre version des faits.
Je suis tout à fait d'accord avec Mme Kanimbo quand elle dit que les progrès ont été faits. Hein, il y a eu plusieurs progrès qui ont été faits pour l'amélioration de la liberté de la presse dans notre pays. Et aussi, elle attribue cette situation à la méconnaissance des textes de part et d'autre, que ce soit du côté des hommes politiques, que ce soit du côté des journalistes eux-mêmes. Et je pense que nous devons conjuguer nos efforts de telle sorte à ce qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions qui puissent nous éviter les désagréments que nous connaissons. Vous avez évoqué, et nous avons suivi dans l'élément, la situation des Luebo. C'est vraiment regrettable de voir que pendant 45 jours, il y a une radio communautaire qui n'a pas pu fonctionner. Et après, on a constaté qu'il y a du matériel qui a été perdu. Et le tout dernier, M. Tamba Mwanda, qui a apporté son témoignage. Donc, je pense que lorsqu'il y a des faits vérifiables comme ça, et dans la manière dont nous fonctionnons de temps en temps, même si on a pu élever les voix tout à l'heure avec Tupiste, mais je crois que lorsque ils remarquent une situation, ils m'appellent. Moi, lorsque je suis au courant d'une situation, je les appelle. Et souvent, nous faisons de sorte aussi à ce qu'on puisse faire du bruit autour des cas que nous connaissons, nous intervenons vite. Je vais prendre un exemple. Tout récemment, nous avons eu une situation un peu regrettable, je pense que c'était dans la ville de Boutembo, quelque chose comme ça, où 12 agents de l'RTNC ont été arrêtés. Dès que l'ADG de l'RTNC est entré en contact avec moi, j'ai répercuté l'information chez eux pour leur dire attention, nous devons faire quelque chose. Et eux de leur côté, moi de mon côté, l'ADG de l'RTNC de son côté, nous avons réussi dans l'heure qui a suivi à faire libérer tous les journalistes qui étaient emprisonnés. Donc nous sommes en train de construire une nouvelle république, nous sommes en train de bâtir une nouvelle démocratie, le processus est encore long et je crois que c'est dans cet élan-là que nous pouvons arriver à changer certaines choses, à changer de mentalité et de telle sorte à ce que nous puissions assumer nos responsabilités. Mais ici, il se pose aussi un problème. Je l'ai dit, je l'ai évoqué avant, c'est lorsqu'on a provoqué et il y a une réaction, puisqu'il y a d'abord une action et il y a une réaction. C'est tout juste au moment de cette réaction qu'on commence à crier aux voleurs, qu'on commence à crier au harcèlement. Mais il faudra que ceux qui provoquent prennent aussi la précaution de savoir que lorsque nous posons tel acte, ceci peut être un désagrément pour nous après. Je prends un exemple, il y a quelques jours, j'ai lu dans deux journaux de la place, on s'en est pris à un de mes collègues qui est un avocat. Il est membre du gouvernement, on s'en est pris à lui pour des faits lorsque il n'était pas membre du gouvernement. Et on veut l'attribuer, depuis qu'il est devenu ministre aujourd'hui, il veut user de ça. Et
ce que j'ai apprécié, c'est d'autres journalistes qui n'ont pas apprécié la démarche de leurs collègues et qui ont dénoncé cela. Je me suis dit, enfin, voilà qu'on commence un peu à mettre de l'ordre.
Dans ce cas-là, la partie lésée a pensé aussi faire un droit de réponse?
J'ai pas encore parlé avec mon collègue, mais le connaissant respectueux de la loi, je pense qu'il va chercher à ce qu'il puisse répondre dans la légalité. Et ceci cadre aussi avec le dernier atelier que l'OMEC a organisé, où il a demandé à ce que nous puissions tous adopter un comportement responsable, que ce soit les politiques,
on va y revenir, monsieur le ministre. Réaction, monsieur Tivoidis, qui est le général de l'ONG Journalistes en Danger.
Eh bien, je dois vous dire franchement que je suis très inquiet du discours que je suis en train d'entendre, venant du porte-parole du gouvernement. Je pense que cela traduit l'esprit du gouvernement, et cela, ça m'inquiète beaucoup, parce que le ministre est en fait de justifier des cas de violence, des cas d'attaque, et peut-être demain des cas d'assassinat des journalistes par le fait que des gens ont été provoqués, et donc pour lui, ils sont légitimement fondés de réagir, donc de se rendre justice en venant tabasser des journalistes, en venant casser le matériel des médias.
Je ne pense pas que c'est incroyable. Je ne sais pas. Il me semble que c'est pas ça que monsieur.
Mais quand le ministre dit qu'il y a eu de la provocation et que les gens ont réagi, mais qu'est-ce que nous voulons bâtir comme État ici? Nous voulons bâtir un État du droit où chacun doit pouvoir utiliser des voies légales pour obtenir réparation si jamais il a été lésé quelque part. Or, les cas que vous avez soulevés, les cas réels, de tous les cas d'agression des journalistes par des forces de l'ordre, par des agents des services spéciaux de la sécurité, sont des cas réels. Et on ne peut pas dire que les services spéciaux de la police ont été provoqués par un article de presse. Le cas de Louvain, qu'est-ce qui s'est passé? La radio communautaire ODL a accordé la parole à un député provincial élu qui a fait ses critiques des autorités locales. Et dès le lendemain, même pas dès le lendemain, le soir, le commissaire district envoie des militaires qui viennent occuper les studios, qui foutent tout le monde dehors et qui cassent le matériel. Et vous pouvez dire que c'est parce qu'il y a eu provocation que les gens ont le droit de réagir de cette façon-là. Deuxième précision.
Rapidement.
S'agissant du journaliste qui est en prison, le monsieur le ministre a dit pour des raisons privées. Mais quelles raisons privées? Le journaliste était en plein exercice de sa fonction à la Cour suprême le jour qu'il y a eu des incidents avec le MLC. Dans la débandade totale, il y a eu un téléphone portable qui appartient à la police que le journaliste a ramassé et qu'il était en train d'aller déposer au poste de police le plus proche quand il a été arrêté. Et aujourd'hui, il est accusé de vol des faits militaires parce qu'il a rapporté, ramassé un téléphone portable. Et depuis qu'il a été arrêté, je vous dis qu'il a été battu, torturé. Et pendant qu'on était en train de le torturer, on lui a posé beaucoup de questions sur son journal, sur sa qualité de journaliste. J'ai dit tout à l'heure que les agressions contre les journalistes se font dans le cadre de leur travail comme journaliste ou à cause de leur qualité de journaliste. L'autre journaliste qui a été le caméraman de CCTV, qui était arrêté presque dans les mêmes conditions, qui vient d'être libéré il y a une semaine, mais il nous a raconté des choses inouïes de ce qui s'est passé. On l'a mis sur lui. Simplement, on l'a arrêté parce qu'il habitait dans la même parcelle que son bailleur qui est un militaire qu'on est venu arrêter. Et lorsqu'on a constaté qu'il était journaliste de CCTV, c'est là le début de son calvaire. Et on a dit, votre chaîne incite à la haine et à la violence, et on lui a collé, lui, parce qu'il est journaliste de CCTV, l'inculpation de atteinte ou incitation à la haine et à la violence. Tout simplement parce qu'il appartient à une chaîne de télévision qui est accusée. Il s'agit de graves violations.
Madame le Sainte Calimo,
parce que ça n'a pas été dans le cadre.
Madame le Sainte Calimo, votre réaction?
Non, absolument, il y a beaucoup d'abus qui sont commis par les services de sécurité, les forces de l'ordre, vis-à-vis des journalistes qui sont dans l'exercice de leur métier. Je voudrais souligner ici le contrat que nous avons signé. Alors qu'il était en train de chercher l'information, il était encore au niveau de la collecte de l'information, il a été brutalisé. Tout tout simplement parce qu'ils cherchaient l'information, et je crois que ça, ce sont des abus qu'il faudrait dénoncer. Mais moi, je me reste positive. Nous sommes en train de chercher à construire un état de droit. Nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie. Nous sommes en train de construire notre démocratie. Et que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorance dans les chefs des uns et des autres par rapport au texte qui régisse la vie de notre pays. Et qu'il y a une éducation à faire par rapport à la connaissance de ces textes. Mais seulement, quand les abus proviennent de ceux qui sont justement, qui ont le pouvoir de garantir tous les textes qui régissent la vie nationale de notre pays, là, on ne peut que dénoncer les abus qui sont commis, et j'ai rejoint Curis quand on entend de la part des pouvoirs publics certains discours, ça inquiète énormément, parce que ceux qui sont appelés à garantir l'exercice de la liberté, à garantir tous les droits fondamentaux de tous les citoyens congolais, s'ils tiennent un discours qui pousse à penser qu'ils disent une chose et son contraire à la fois, ça peut être inquiétant, même pour assurer la sécurité des journalistes qui jouent un rôle social important, et même dans la construction de la démocratie. Et donc, on ne peut que demander de la part des pouvoirs publics de garantir cette sécurité aux journalistes qui ne font que son travail, parce que la nation a besoin des informations indépendantes, fiables, qui permettront aux citoyens de se rendre compte de la gestion de la cité par les gouvernants. Et donc, on ne peut que lancer encore une fois un appel au pouvoir public, au ministre de l'Information, de la Presse et de la Communication nationale, de faire en sorte que les journalistes aient un maximum de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Même quand ils sont à la recherche de l'information, ils ne doivent pas être brutalisés par les agents de l'ordre, par n'importe qui, tout simplement parce que les journalistes cherchent l'information qui est indispensable et que les citoyens ont besoin de savoir comment est gérée la cité.
Merci Madame Chantal Kanimbo. Une petite question très rapidement, mais c'est deux petites questions en tout cas. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes au courant de toutes ces violations lorsqu'on arrête un journaliste, qu'on le tabasse, qu'on le jette en prison, et vous venez de suivre la réaction de Monsieur Tivi, c'est aussi la réaction de Madame Kanimbo, ça c'est la première petite question. La deuxième, plusieurs questions que nous avons reçues aujourd'hui, en tout cas, les autres, on va peut-être les écouter avec Pamela Mounazo, qui demande qu'on utilise avec les chaînes CCTV, RALIC. Jusque là, ces chaînes sont réduites au silence.
Je savais en venant ici que vous n'éviterez pas de me poser cette question-là.
Les auditeurs veulent bien avec l'avocat qui est
à côté. Ici, il faut éviter de politiser les choses. Hein. Il faut éviter de politiser les choses et surtout de se livrer à une passion parce qu'on est très émotionnel dans nos pays et c'est très risquant. La première question, celle de savoir si je suis au courant de toutes ces situations de désagrément que connaissent les hommes et les femmes des médias, je suis au courant de ce qu'on veut bien me faire connaître, mais je ne suis pas en mesure de commencer à fouiner dans toute la République pour savoir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Je pense que même ceux de la corporation, ils peuvent être honnêtes de ce côté-là, ils vous diront que si on ne les a pas informés, ils ne savent pas. Et lorsque je suis informé de quelque chose, je réagis vite. Donc, pour moi, je suis très expéditif de ce côté-là. Alors, quant aux deux chaînes de télévision et la radio, excusez-moi, je peux vous dire ici que pour les deux chaînes de télévision, il y a la situation qui s'est passée 24 heures avant, s'il vous plaît, parce que la chaîne Canal Kin, c'est elle qui devait à une société privée et les problèmes s'est passé entre cette société et Canal Kin. Et je vous dis que cette société a même demandé à son conseil de pouvoir engager des poursuites vis-à-vis de Canal Kin et a retiré son signal. Par contre, la deuxième société qui a connu, a été victime avec des matériels qui ont été saccagés, comme on l'a tous vu avec cette histoire du 22-23. Mais je voudrais aussi signaler pour nos auditeurs que ce soit CCTV, que ce soit RALIC, ce sont des organismes qui n'ont pas d'existence légale. Donc, je lance un défi à qui que ce soit pour vous dire que ça n'a pas d'existence légale, donc je ne vois pas pourquoi je vais prendre la défense de quelque chose qui n'existe pas. C'est aussi ça le danger lorsqu'on est en train de dire qu'on est en train de museler la presse, qu'on est en train de feindre la liberté de la presse, parce qu'il y a des organes qui n'existent que parce que les propriétaires ont voulu que ça puisse exister. Et voire même depuis un certain moment, j'ai été approché par certaines personnes qui me disent que Canal KIN, au départ s'appelait Canal Z, ça a été arraché à quelqu'un et celui-ci voudrait entamer des démarches pour récupérer sa chaîne de télévision. Donc, nous avons encore des épisodes à suivre.
Merci,
donc,
monsieur.
Je pense que les auditeurs seront tenus informés au moment venu.
Ok. En une minute, madame Chantal, vous venez de suivre, monsieur le ministre. Vous êtes d'accord avec ces informations?
Bon, écoutez, chaîne de télévision qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Si effectivement ce que le ministre dit, ce sont des chaînes de télévision et des radios qui n'existent pas, en tout cas moi je m'interroge pourquoi on les a laissés s'installer et fonctionner pendant autant d'années sans vérifier qu'effectivement c'est des chaînes qui n'existent pas. Si elles n'existent pas sur papier, mais elles existent sur des faits, parce qu'on les a laissés fonctionner depuis toutes ces années, et donc pour nous, nous considérons que c'est une atteinte à la liberté des presses si on les ferme aujourd'hui pour une ou une autre raison. Pour nous, c'est une atteinte à la liberté des presses parce que si on estime que c'était des chaînes qui n'existent pas formellement, on devrait les fermer depuis le début plutôt que d'attendre qu'il se pose un problème politique pour pouvoir commencer à trouver des raisons et dire que voilà, il y a ça.
Merci madame Chantal, je vois monsieur le ministre qui demande vraiment la parole, je vais lui accorder la parole juste après, mais monsieur le ministre, juste après je vais vous accorder la parole, donc c'est promesse faite. La parole a été aussi donnée aux professionnels des médias, voici ce qu'ils pensent, les journalistes de la liberté de la presse en RDC sur base de ce qu'ils vivent au quotidien.
Je m'appelle Rose, je suis journaliste à la presse écrite à Mbujimayi. Il arrive des fois on fait des publications, mais nous sommes traqués par les personnes qui sont concernées. Parfois on vient même demander c'est qui a écrit cet article. Bon, comme on ne peut pas toujours divulguer le nom, mais la liberté de la presse n'est pas vraiment exercée. On a toujours des difficultés dans le sens que si vous publiez un article où quelqu'un est interpellé, il se sent mal à l'aise et vous êtes poursuivi par tous les moyens. La loi nous donne le pouvoir d'exercer notre métier avec liberté.
Efole Mpoko Patrick, journaliste, reporter et secrétaire de rédaction à Tropicana Télévision à Kinshasa. C'est que nous, journalistes congolais, avec ou sans accréditation, qui avons souvent nos cartes de presse sur nous, quand nous arrivons, nous n'avons pas accès à certaines salles, nous n'avons pas accès à certaines sources d'informations. Il arrive des fois qu'il y a des questions nationales, d'actualité. Nous cherchons à joindre une source officielle pour avoir la véritable information. Alors, comment expliquer ça aux téléspectateurs? Il se fait que ici à Kinshasa, tout, mais absolument tout, est devenu stratégique. Vous ne pouvez pas pointer votre caméra sans qu'il y ait un gendarme, un policier, quelqu'un qui vous présente une carte de l'année pour dire que voilà, ici, tu ne peux pas filmer, c'est un site stratégique.
Moi, c'est Otan Sabakoutamouliza, journaliste correspondante des Digital Congo dans la province du Nord Kivu. Il n'y a pas vraiment des grandes difficultés, si je peux les dire, sauf que nous avons des fois des petits problèmes avec nos confrères journalistes qui ne veulent pas de quoi nous accepter, nous considérer au même niveau qu'eux. Il y a certains confrères qui se croient plus supérieurs que nous, les femmes journalistes, et pourtant nous traitons l'information de la même façon. Il y a aussi le problème d'accéder de quoi à certaines sources. De fois généralement, puisque nous ne sommes pas, nous comment, mais c'est de fois difficile.
Gérard Eguilé-Mangando, rédacteur en chef de la Sainte Équateur en Mandaka, il y a les conditions de vie et de travail, d'abord les matériels, disons, la SNC, c'est difficile, c'est ça, tout le monde le sait. Et en plus de cela, les conditions sociales, les salaires, donc, c'est pas un journaliste qui est considéré comme porte-parole de la société, mais il faut voir comment il est payé aujourd'hui. Et donc, c'est minable. Il y a assez difficile à certaines sources d'informations. Vous allez dans cette service, on dit non, quand vous parlez par exemple au niveau des services de maximisation de recettes, non, les chiffres, on ne peut pas vous les donner. Et vous voyez toutes ces choses-là aussi sont à la base de nos connaissances.
c'est Jean-Christophe Kawaya, journaliste de la radio King de Fréquence Modulaire. Vous savez, chers confrères, la presse connaît encore des difficultés dans la province. Étant donné que nous sommes une jeune province d'abord, et que la culture médiatique est en train de s'installer peu à peu, et qu'il faudra plus travailler pour arriver à faire imprégner la culture médiatique et au sein de l'opinion publique. Voilà, merci. Je retiens dans ces propos la difficulté d'accès aux sources d'information pour les journalistes, les mauvaises conditions de vie et de travail du journaliste congolais. Alors, le temps passe très vite, j'avais promis à M. le ministre de pouvoir lui donner la parole. J'espère que dans ces dossiers, Canal Kin, Ralik, Canal Congo Télévision, il y a beaucoup à dire. Et je crois que M. Tivis également voudrait dire un mot, mais comme j'avais promis très rapidement, M. le ministre.
Et je voulais tout juste attirer l'attention de Mme la présidente de l'UNPC que ce n'est pas à cause de cette existence légale que. Non, ce n'est pas ça. Il y a eu des faits qui ont touché à la sécurité de l'État par rapport à la déstabilisation des institutions qu'on a voulu faire dans ce pays, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas non plus se qu'on puisse émettre des sentiments comme ça pour dire parce qu'on veut sauver ce qu'on doit sauver, on ne doit pas sauver ce qu'on ne doit pas sauver. Non, il y a eu des problèmes sérieux qui ont entaché à la déstabilisation des institutions de la République, et là, il y a des enquêtes qui sont en cours, et là-dedans, on va retrouver que le siège, malheureusement, le siège de la radio et des chaînes de télévision a été au même moment le siège d'un mouvement politique où on a retrouvé des armes. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs implications dans cette histoire. Là, je ne fais pas attention à ça, et il faudrait que les gens comprennent cela.
C'est bien compris. Quelles mesures prendre pour garantir la liberté de la presse en RD Congo? Monsieur Tivis, tu vois, il nous reste juste 4 minutes pour terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, finalement, dans notre pays, nous parlons de la liberté de la presse qui se porte mieux?
Non, je voudrais d'abord préciser qu'il n'y a jamais eu de problème d'arriéré ou de dette au niveau de CCTV. Il n'y a jamais eu de ce problème. Nous avons demandé l'information aux officiers de téléconsulte. Il a dit qu'il n'en était jamais question. Et je comprends que le signal avait été coupé sciemment bien avant les affrontements. Je voulais simplement dire que parmi les critères qui président, n'est-ce pas, à l'appréciation de l'état de la liberté, du niveau de la liberté dans un pays, il y a aussi le problème du cadre juridique dans lequel exercent les journalistes. Et vous savez que dans notre pays, nous avons hérité d'un cadre juridique dans lequel les gens sont en train de travailler, qui date des années 85, donc des années dites de la dictature. Et là-dessus, il n'y a encore aucune réforme qui a été faite dans ce sens pour permettre effectivement aux journalistes de travailler en toute liberté et indépendance, mais aussi en toute sécurité. Je pense que les nouvelles institutions pour la Troisième République qui commence, je pense que ce qui est le plus urgent, c'est d'entamer un travail de réforme profonde du cadre juridique, afin de permettre aux journalistes non seulement de ne pas terminer sa journée en prison chaque fois qu'il aura donné une information, même si cette information était fausse, mais pour permettre aussi aux journalistes, comme vous avez tout à l'heure, de pouvoir accéder librement à toutes les sources d'information afin d'informer correctement le public.
Merci, M. Tivis. Tu vois dire, quelle mesure prendre pour garantir la liberté de la presse en RD Congo, M. le ministre?
Merci beaucoup. Je pense que M. Tivadi siège dans une commission que j'ai mise en place pour la réflexion sur la loi organique qui concerne le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et cette même commission j'ai demandé à ce qu'elle puisse réfléchir sur l'actualisation de la loi de 96 qui régit la liberté et l'exercice de la presse aujourd'hui. Moi, je vois qu'il n'a pas voulu mentionner cela puisque tout ce qui est
pour voir oublier parce qu'il est pour voir dans cette présence de mauvais.
Mais j'affirme qu'il fait partie de cette commission et chaque lundi, ils sont à mon cabinet parce qu'il y a une salle à côté et cette commission est présidée par le recteur et
c'est bien compris.
C'est-à-dire que c'est le cadre juridique qu'il faut revoir et nous sommes en train de le faire puisque nous n'avons pas les trois croisés.
Merci, M. le ministre. 30 secondes, Mme Chantal. Vraiment 30 secondes.
En attendant cette réforme, il faudrait qu'on respecte dès maintenant les textes qui existent, qui réglementent l'exercice de la liberté de la presse dans le pays, et que cette liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution soit également respectée, que la Constitution soit respectée, les textes qui existent pour le moment soient respectés.
Merci Madame Chantal. Nous allons terminer avec ces mots du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui dit « Une presse libre, indépendante et à l'abri du danger est l'un des fondements
fondements mêmes de la démocratie et de la paix. Les gouvernements, les organisations internationales, les médias et la société civile ont tous un rôle à jouer dans la défense de ces fondements. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, réaffirmons notre attachement à cette mission signée Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir.